One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur, but I'm planning to go away. Now I am real old, don't you know? Born 10 billion years ago, but they don't love me here enough, and so I'm planning to go away. Now the children upon their lawn will wake up and wonder where I've gone. And the flies that buzz around where I now be, they're all gonna have to get along without me. They'll say,
"Where's the little dinosaur?" Wow! Well, I was lost in the forest, but now I'm back!
Salut à toi, Toyo.
Oui, voici la réponse à la question. Où était le petit dinosaure?
Canal Sud 92.2. Très rendez-vous avec la musique 70s. Bon, on va démarrer d'entrée, hein, pas de vu qu'on a déjà au moins 10 minutes.
On va faire dans le franc, dans le classique, dans le cœur de cible, un morceau d'Alice Cooper, sa grande période, No More Mr. Nice Guy. C'était l'album Billion Dollar Babies en 1973.
I used to be such a sweet, sweet thing to lay.
le classique évidemment Rebel Rebel par David Bowie, album Diamond Dogs en 74. En fait, c'était un reste de mon spécial Runaways que j'ai fait cet été, car le morceau apparaît dans la bande son du film. Et il se trouve que plus tard, John Jett a repris ce morceau sur scène, Rebel Rebel. Donc David Bowie faisait bien sûr partie des grandes influences des Runaways à leur début.
C'est un peu le dernier bon morceau de David Bowie pour moi.
Ouais. Ah, Diamond Dogs, oui, c'est un peu le Pin-Up, c'est après, je crois.
C'est vrai, non, Pin-Up c'était avant. Et puis Pin-Up c'était un album de reprise, donc c'est un peu.
On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Et on reparlera de Rebel Rebel. Et effectivement, oui, par la suite. Bon. Mais cet album reste bon, mais il y a une petite histoire, donc on en parlera tout à l'heure.
Où est-ce qu'on a été ? Bah tiens, passe-nous le morceau suivant, Sylvain. Presque. Pas celui-là, mais on va s'écouter quelque chose qui ressemble. Puisque justement tu nous resserres à Runaways, on va s'écouter Secrets, c'est sur le premier album de Runaways.
Et donc il faut bien écouter l'intro et la comparer à celle de No More Mr. Nice Guy. Alors, hein, voyons. Secrets, les Runaways, avec effectivement une intro qui rappelle un petit peu celle de No More Mr. Nice Guy des Scoopers.
Oui, et puis beaucoup d'autres petites citations au passage, un morceau qui ne fera pas date, qui n'a pas fait date, mais qui est rigolo.
Secrets. Citation d'un truc entre Louis et Waltzing, effectivement.
Puis à un moment, ils font elles font. Excuse-moi. Ça rappelle vaguement un riff de Led Zeppelin.
Voilà, c'était une petite déconnade. C'était son premier album, ça.
Ouais, tout à fait.
Eh bien, on va revenir à David Bowie, par la bande, si j'ose dire, avec Wayne County et l'album Head the Trucks.
Ah, oui, oui.
Voilà. Et tu sais qu'à cette époque-là, Wayne County était sous contrat avec David Bowie, avec sa boîte de production.
La boîte de production, Main Man de David
Bowie.
Main Man,
voilà, dont le logo apparaît d'ailleurs sur Diamond Dogs. Et David Bowie donc avait enregistré ce concert de Wayne County à New York, là, devant un parterre d'invités, en fait. Et il avait tourné un film, tu sais, il avait dépensé, je ne sais plus, une fortune, pour l'époque, 100 000 dollars, un truc comme ça, pour tourner un film. Mais l'album n'est jamais sorti à l'époque, et le film encore moins. Et par la suite, certains disent que David Bowie avait trouvé quand même que c'est assez impressionnant là, ce qu'il faisait, Wayne County. Et il a piqué pas mal d'idées, notamment, il aurait été inspiré pour son Rebel Rebel par le morceau Queen Edge Baby, qu'on va s'écouter. Hein. Mais il a fait pire, il essaie de justifier auprès de Wayne County pourquoi il bloquait pour l'instant la sortie de l'album, en lui faisant des promesses, plus tard et tout. Et alors, bon, Wayne County lui a dit, oh, bah, tu sais, si tu veux pas sortir ça, bon, moi j'ai une autre idée, c'est faire un album de reprise 60s. qui aurait été enregistré, qui est resté dans les placards, parce qu'il était sous contrat avec Bowie, que Bowie sait ce qu'il voulait. Et Bowie, peu de temps après, a sorti Pin Up. Les relations un peu tumultueuses là, entre Bowie et Wayne County... Enfin, en tout cas, pour dire les choses clairement, Wayne County s'est fait entuber grave par David Bowie, mais par la suite, on sait tous qu'il a rebondi magnifiquement. Une dernière anecdote sur Wayne County. Tu sais que j'ai fait un post là sur Wayne County dans le magnifique blog du Champ à la Une. En disant que c'était, à ma connaissance, en tout cas, l'unique transsexuel, bon, point d'interrogation, puisqu'il y a des doutes. Hein,
Je sais que j'avais discuté avec Roland Wagner, justement, qui... est un type qui se documentait en détail. Et d'après lui, Wayne County avait fait tout un baratin sur le fait qu'il était allé subir une opération en Angleterre ou aux Pays-Bas, ou je ne sais où. Il était revenu, on se fait appeler Jane.
En Allemagne, je crois.
Mais que l'opération, c'était juste la chirurgie esthétique pour son nez et que ce n'était pas du tout ce qu'on pensait. Voilà. Mais, personne ne sait vraiment, je crois.
On peut toujours aller voir sous ses jupes, hein, mais bon. Eh bien, il y a un internaute qui a mis un commentaire à ce poste en disant... lui, il pensait qu'effectivement, c'était un vrai transsexuel, hein, mais que ce n'était pas le seul de l'histoire du rock. Il m'en a cité deux autres. Alors, par contre, c'est des noms totalement méconnus. Je ne sais plus, un mec qui s'appelle Joe Robin, qui doit s'appeler peut-être Marguerite ou quelque chose comme ça maintenant, et un autre... dont j'oublie le nom, qui lui aussi a changé de sexe et a changé de prénom.
Ah ouais, c'est pas du rock, mais tu sais, il y a aussi le mec qui avait fait la musique d'Orange Mécanique, qui avait enregistré la musique d'Orange Mécanique.
Mais là, c'est vrai qu'on s'écarte, disons, du... Voilà,
bon, c'était un peu la même époque, et ça passait pas mal à la radio aussi, voilà. Tu sais, ça, la version là, de l'hymne de la joie. Ah oui, lui, c'était un lui à l'époque, et il est devenu une femme.
D'accord.
Alors, je sais plus, j'ai oublié son nom.
On se refera un jour, sur Internet. Un spécial transsexuel et travesti, parce que, bon, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. On l'a déjà fait un, mais il y a au moins 10 ans.
Il y a longtemps.
On remettra ça, on mettra le... un jour. En attendant, on s'écoute Wayne County. C'était encore Wayne à l'époque. C'était en 74, là aussi, début 74. Et c'était ce concert at the Trucks à New York avec le morceau Queen Edge Baby. Alors à vous de dire si on peut sentir dans Rebel Rebel qu'on écoutait tout à l'heure une influence de ce morceau de Wayne County.
We wish to welcome you all to our show. Ladies and ladies, sorry, but after all, I mean, we have rehearsed this show so hard, and especially just for you people, right, boys? You bet your balls. This next number we have for you is about queenagers. You know, queenagers are the big rave today. Queenage heaven, a queenager in love. Well, we got a song called Queenage Baby. Hit it, boys. Queenage baby, let's play the deal. Queenage baby, give me a thrill.
Baby, c'était Wayne County en 74, le Live at the Trucks, sorti depuis par Munster, entre autres, avec en plus, alors il y a que quelques morceaux qui ont été enregistrés, il y en a 7 si je me souviens bien, ou qui sont, ils ont retrouvé ces bandes dans un carton à la, devant la porte d'un studio qui était en train d'être abandonné, enfin vidé, quoi, en cours de démolition, quelque chose comme ça. Les bandes ont été retrouvées par miracle et donc Munster les a rééditées. Il y a 7 morceaux live enregistrés lors de ce concert, plus des morceaux de différentes époques de sa carrière. Ça, on a déjà souvent passé ce disque, hein. C'est un très bon disque qui complète les disques d'Electric Chairs par exemple, le groupe suivant que formera Wayne County un petit peu plus tard.
Ouais. Eh bien écoute, on va s'écouter la chanson Jesse James. Alors Jesse James était un brigand très célèbre qui en fait avait commencé sa carrière comme, comment dire, dans des groupes de gens qui n'acceptaient pas la défaite du Sud face au Nord dans la guerre de sécession et pillaient des banques et tuaient des gens à droite et à gauche qui soupçonnaient d'être sympathisants des républicains puisque les républicains à l'époque c'était le parti d'Abraham Lincoln et c'était ceux qui avaient fait abolir l'esclavage et... qui voulait dire que les Noirs étaient des êtres humains. Oh, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Donc, il fallait faire quelque chose. Il est arrivé à Jesse James, d'ailleurs, et sa bande, hein, le James Gang, puisque le James Gang, qui a donné son nom à un groupe de rock aussi dans les années 70, c'était le nom de la bande de Jesse James et de son frère, Frank James, de se déguiser avec les habits du Ku Klux Klan. Ils étaient sympathisants de ce genre d'idées bien gentilles. Bon, curieusement, il a réussi à faire sa... comment dire, son public relation de façon très efficace et a propagé plus tard la légende et l'idée que c'était une sorte de Robin des Bois américain qui volait aux riches pour donner aux pauvres. En fait, il n'y a aucune trace historique de Jesse. Alors, il a volé aux riches, oui, parce que c'est là qu'il y avait l'argent, mais il a volé des banques qui n'étaient pas toujours des grosses banques. Parfois, c'était des petites caisses d'épargne locales, tu vois. Il tuait le caissier, il prenait l'argent. Mais...
les Américains ont un problème avec l'histoire.
Voilà, pour ce qui est donné aux pauvres, on trouve pas trop de traces. Il y a aucune preuve qu'il ait jamais donné à qui que ce soit d'autre que ses complices, parce qu'ils étaient tout un paquet en fait. Donc il y a eu une légende de Jesse James qui s'est propagée, et donc des chansons sur Jesse James. On va s'écouter une d'entre elles qui a été écrite par le Grease Band, qui était un groupe anglais, figure-toi, hein, un groupe anglais qui était des anciens accompagnateurs de Joe Cocker, et qui a été reprise en 72 par Bob Seger dans le disque qu'il a fait avec le duo Teegarden et Van Winkle, des gens pas très connus, hein, je te rassure. Il avait fait un disque avec ces deux gars-là qui s'appelait Smokin' Opies, donc voilà, Bob Seger.
Un bon disque, d'ailleurs.
Très rugueux, d'ailleurs, parce que...
Très roots, aussi.
Il n'y a pas beaucoup d'instruments. Et c'est que des Smokin' Opies, alors ça veut dire... Opies, on l'a déjà expliqué. Opies, c'est l'abréviation de Other Peoples. Et quand on est fauché, qu'on n'a pas de quoi se payer les cigarettes, on en pique aux autres, on s'en fait passer, on en tape aux autres. Et donc, ça s'appelle Smokin' Opies, ça s'appelle Fumer les cigarettes des autres, en fait. Et ce disque est un disque de reprise, à deux exceptions près, qui sont en fait des reprises de lui-même, puisqu'il y a des nouvelles versions de Someday et Heavy Music, deux morceaux qu'il avait fait en single dans ses débuts à Detroit, les années 60. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, parce qu'il chante les chansons des autres, et donc celle-ci est une reprise. Et
dernière précision, pour le repérer facilement ce disque dans les bacs, c'est celui qui a en couverture une parodie, enfin une reproduction du logo de Lucky Strike.
Voilà, ça ressemble à un paquet de cigarettes. Voilà, donc il y avait un batteur et un organiste avec lui, je ne sais plus comment il se débrouillait pour la basse. Bob Seger jouait encore de la guitare à l'époque, c'est peut-être un des derniers disques sur lesquels il joue vraiment de la guitare. Après, il a laissé cette tâche aux musiciens qu'il avait embauchés dans le Silver Bullet Band.
Voilà, des tâcherons.
Il y avait l'ancien batteur du Grand Funk à une époque, et attention.
ils ont fait quand même que de la daube.
Bien, et donc on s'écoute Jesse James.
Tu vas pas me croire, mais putain, il n'y a pas d'autostart.
Ah, donc on s'écoute, putain, il n'y a pas d'autostart. Un morceau qui est de plus en plus...
Dark and cold, and
Et voilà, le pauvre Jesse James s'est fait descendre par le Dirty Little Coward, qui s'appelait en fait Robert Ford, et qui l'a tué par derrière, en attendant qu'il soit désarmé, on est prudent, hein, et de façon préméditée pour toucher la récompense de $50,000, ce qui était une somme énorme à l'époque, qui avait été promise par le gouverneur du Missouri, qui vraiment en avait assez de se faire ridiculiser par Jesse James.
Triste histoire.
Ouais, oui, oh, bah, triste aussi pour tous les gens que Jesse James a descendu. Un jour, il était allé tuer son voisin parce qu'il y avait eu un incendie chez lui. Il a dit c'est le voisin qui l'a fait. Enfin, bon,
transformer les gangsters en héros, c'est un peu une manie aussi. Oh, peut-être pas que américaine.
Non,
d'ailleurs,
ça, mais bon.
Dillinger, comme ça, toute compagnie, sont des héros hein, aux États-Unis. Mm. Ils ont tous quand même du sang sur les mains. Hein.
Bonnie and Clyde.
Voilà. Bonnie and Clyde, je sais pas s'ils ont tant de meurtres que ça sur les bras.
En fait, oui, je connais pas leur histoire.
Ah, c'est pareil, c'était des braqueurs de banque, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de meurtres. Dillinger a quelques meurtres à se reprocher, pourtant c'est devenu un héros lui aussi. Eh bien, on va s'écouter une reprise de Rebel Rebel, à propos de Rebel, ça en était peut-être quelque part, d'une certaine manière. Une reprise par John Jett. Encore, là, de temps en temps, mon sillon revient sur les Runaways et toutes leurs aventures. Je retombe dessus. Et tiens, on va s'écouter donc cette version live sur un album venant de l'île de la Tortue, naturellement. Enregistré live à New York le 27 décembre 1980. Alors, un son pourri, hein, je vous préviens, mais bon, c'est ce que c'est. Hein. Au bout d'une minute trente, c'est bon, on s'y fait. La version par John Jett de Rebel Rebel en public en 80.
Oh,
Voilà, John Jett, donc guitariste et puis chanteur sur la fin des One Ways, dans sa carrière solo avec les Black Hearts.
Et quelque part, le vrai chef des Runaways, quoi. Même si Chuck Curry était mise devant parce qu'elle avait une jolie gueule. Hein,
bah, c'était la compositrice principale.
Voilà, c'était la musicienne du groupe, quoi.
Voilà. Sur le dernier album, Lita Ford se met à composer pas mal, mais du coup, c'est beaucoup moins bon sur le dernier album des Runaways. Mais sinon, c'était elle un peu l'âme du groupe, hein, c'est sûr.
Oui, comment ça s'appelle ? And Now the Runaways.
Voilà. Alors, celui-là, il n'est vraiment pas recommandable. Il y a un bon titre, mais le reste...
Eh bien, écoute, on s'est écouté Jesse James avec des intentions que nous allons maintenant dévoiler, qui était d'écouter un morceau du disque des Kentucky Bridge Burners, qui est donc en fait un album de Blaine Cartwright, hein, l'homme des Nashville Pussy, l'homme des Nine Pound Hammer. Donc un morceau qui s'appelle They laid Jesus Christ in his grave. Et they laid Jesus Christ in his grave, ça m'a fait quand même, ça m'a tourné dans la tête et je me suis dit, tiens, mais they laid Jesus Christ in his grave, they laid poor Jesse in his grave, dit la chanson de Jesse James. Et il y a quand même une espèce de, comment dire, d'air de famille entre ces deux chansons, en particulier quelque part dans they laid Jesus Christ in his grave, il est question du Dirty Little Coward ou quelque chose comme
d'accord.
ça. Qui, donc sur
l'album, bon. Il revendique des emprunts à Bruce Springsteen et Bob Dylan,
voilà.
notamment.
Il y a peut-être cet emprunt au Grease Band, bon, plus ou moins volontaire. C'est pas une décalque. Hein.
Non, mais c'est plutôt un clin d'œil sympathique, je dirais.
Voilà, et donc on va se l'écouter, et puis ça fait toujours plaisir. Dirty little pirate. Ah. Ah ouais, bon, ben ça c'est les aléas des copies de morceaux. Qui était peut-être suivi par un autre, enchaîné dans le disque d'origine.
C'était donc les Kentucky Bridge Burners, effectivement, qui font un clin d'œil à Bob Seger et à son Jesse James.
Enfin,
mais je pense que c'est la version de Bob Seger.
C'est probablement la version de Bob Seger qu'ils connaissent.
Qu'ils connaissent le mieux, en tout cas, je suppose. Notre album classique du moment.
Queen,
A Night at the Opera. Un titre, on ne l'a pas encore dit, mais il faut le rappeler quand même, qui est tiré d'un film des Marx Brothers. Et l'album suivant de Queen s'appellera A Day at the Races. C'est une sorte de diptyque, en fait, hein, avec même genre de pochette, à part que le fond est blanc sur l'album A Night at the Opera. A Day at the Races, le fond est noir. Et A Day at the Races, c'est aussi un film des Marx Brothers. Donc, on en arrive au morceau You're My Best Friend, qui a été le premier 45 tours de Queen écrit par John Deacon, mais pas le dernier. Et le premier à faire un gros carton, il a été dans le top 10 pendant un certain temps. Il faut dire que tout l'album a marché, hein, du feu de Dieu, et que le single qui a le mieux marché, bon, ben celui-là on se le réserve pour la fin de notre rubrique, ce sera le dernier morceau de l'album, hein, on en reparlera. Mais You're My Best Friend a eu beaucoup de succès. C'est un morceau, bon, assez gentil, mais plutôt réussi. Alors, John Deacon l'avait composé, semble-t-il, alors qu'il apprenait à jouer du piano. Et alors là, ça a été venu tout de suite, cette petite mélodie. C'est un morceau dédié à sa femme, hein. Il n'y a pas de... C'est pas plus compliqué que ça. Et sur le disque, il joue du piano du Wurlitzer, là, tu sais, qui fait ce son un peu bizarre. Et plus tard, dans des interviews, semble-t-il, Freddie Mercury fera référence à ce Wurlitzer comme étant un horrible instrument. N'empêche que le morceau soit bien cartonné et que, ma foi, c'est une des réussites de Queen. Ça s'appelle donc You're My Best Friend. C'est Queen sur l'album A Night at the Opera. c'est Frank Quinn.
Oula, après ça sera In the Days of 49.
39, c'est un morceau de science-fiction en fait. On parle la semaine prochaine.
Ouais, ouais, bien sûr. Et bien non, la semaine prochaine on fait un spécial.
Ah, c'est vrai. C'est vrai.
On va faire le spécial hard.
Ah ouais.
Donc on en parlera en deux semaines.
Ah, j'ai rien amené pour introduire ce numéro spécial.
Ah, mais si c'est dur, ça n'a pas besoin de quoi que ce soit pour l'introduire.
Bon, alors très bien.
Bien, après cette plaisanterie d'un goût parfait, comme. Enfin bon, attendez la fin de l'émission. Je vous rappelle que vous écoutez Canal Sud 92.2 MHz et qu'on vous demande de ne pas aller le raconter à votre grand-mère. Et on va s'écouter le Grease Band. Grease Band, donc, qui ont écrit cette chanson de Jesse James, dont on a écouté la reprise par Bob Seger. Et qui était en fait le groupe d'accompagnement de Joe Cocker, les mecs qui accompagnaient Joe Cocker depuis longtemps, depuis le début, enfin la milieu des années 60, et qui était sur ses premiers albums ou sur son premier album, en tout cas, par exemple, tant que était le premier, c'était With a Little Help from My Friends, son premier succès sur un truc, avec Chris Stainton au clavier. Et ça, c'était les gens qui accompagnaient Joe Cocker à ce moment-là. Et ensuite, Joe Cocker est allé fricoter avec Leon Russell, Chris Stainton aussi. Il n'a plus besoin de son guitariste, bassiste, batteur et tout ça. Ces gens-là se sont retrouvés dans Spooky Tooth. À un moment où Spooky Tooth avait perdu pratiquement tous ses membres, il fallait les remplacer.
Ouais, tout le monde est passé par Spooky Tooth.
Et il y avait Chris Stainton là-dedans, dans cette histoire-là aussi. C'était l'album dans lequel Spooky Tooth avait fait sa version de I Am the Walrus, qui ressemblait beaucoup à la version de We've Got a Life from My Friends par Joe Cocker, si tu veux. Hein. Bon. Et puis, tous ces gens-là sont repartis parce que Spooky Tooth a explosé pour de bon à l'époque avant de se reformer.
Enfin, bah, évidemment.
Naturellement. Et ils se sont remis dans un groupe entre eux sous le nom de The Grease Band. Ils ont recruté Neil Hubbard, qui était un des guitaristes de Juicy Lucy, un groupe de blues britannique, voilà tout ça. Et ils ont fait deux albums d'honnête musique très roots, très américaine, mais par des braves garçons anglais. Toujours produit par Chris Stainton, qui ne jouait pas avec eux, quoique je vois que les claviers sur ce disque sont crédités à un monsieur Phil Harmonious Plunk, tandis que Chris Stainton est censé être le producteur. Donc je me demande s'il n'y a pas des raisons contractuelles qui a fait qu'il jouait sur le disque, mais il ne pouvait pas le dire. Enfin bon, bref. Et donc on va s'écouter cet album qui s'appelle The Grease Band, tout court, sorti en 70 ou 11, 71 je crois. Le morceau, la version originale de Jesse James. Sylvain, je passe un disque, un vrai truc, tu vois, de 30 cm de diamètre, noir, avec des petites rides sur la surface.
Non, mais le spécial hard, c'est la semaine prochaine. Hein. Alors, un disque, tu vas dire, un machin noir avec des... Oui, d'accord. Mais attention, il n'y a pas d'autostart. Alors, je me prépare, je lance le bignou. Alors,
passe-nous le fameux groupe.
Et j'appuie. Too cool, man. Grease Band, donc. Jesse James.
Voilà, il y a une petite intro au morceau que Bob Seger a supprimé, dans lequel le gars disait, tu sais, Jesse, tu es beaucoup de gens. And that ain't too cool, man.
It's a story of a bad man.
Et... ouais. Voilà. Donc, ils avaient quand même pas trop d'illusions sur Jesse James. Hein. Mais par contre, le pire, c'est le Dirty Little Coward, le Judas Iscariot de l'histoire, qui s'appelle Robert Ford, qui a été tué, Jesse James, par derrière, lâchement, pour toucher la récompense. Voilà.
Quel morceau groove maintenant.
Allez, vas-y.
Avec un tube des 70s que tout le monde connaît, mais sans forcément connaître le titre du morceau, en fait. Mais toi, tu le connais peut-être, alors je te demande de garder le secret. Un morceau qui s'appelle Lady Marmalade.
Ah oui, bien sûr. Alors, tout le monde s'en souvient à cause du français qu'il y a dedans.
Voilà.
Au deux sens du terme, d'ailleurs. Parce que tu sais qu'en anglais, quand on dit « pardon my French », ça veut dire qu'on a dit un gros mot. Quoi.
Ah d'accord. Il n'y a aucun gros mot dans ce morceau. Mais effectivement, il y a un refrain en français qui a marqué les esprits. Et puis, c'est un morceau qui était très, très souvent repris. Un tube énorme. Hein, des dizaines, des centaines de reprises partout dans le monde. Et ça, c'est l'original, hein, par Label. Label, c'était un trio de vocal féminin mené par son prénom, je crois que c'était Patty Label. J'ai un petit doute, mais bon, on me corrigera si nécessaire. Avec deux copines, là, et puis elles sévissaient à la Nouvelle-Orient et elles ont sorti quelques merveilles, mais quand même qui marchaient localement et qui n'ont pas eu énormément de succès, mais qu'on retrouve sur des compiles. Et puis il y a eu ce Lady Marmalade qui est devenu un tube énorme. On se l'écoute tout de suite, avec plaisir, et vous chanterez le refrain avec nous, j'en suis sûr.
Get you, get you, yeah, yeah.
Et oui, Lady Marmalade, c'était ce fameux morceau avec le refrain « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» qui est devenu le titre d'ailleurs de certaines reprises avec entre parenthèses Lady Marmalade.
Oui, mais c'est sûr qu'en France, c'est comme ça que les gens ont retenu. Voilà. Hein.
Et c'était donc l'original qu'on vient de s'écouter en 75 par Label, un groupe de la Nouvelle-Orléans. On peut retrouver cette version sur une magnifique compile qui s'appelle Crescent City, le surnom de Nouvelle-Orléans. Partout on aime tout, c'est deux doubles CD en fait. Quatre CD qui regroupent tous les tubes, enfin tous non, mais une grande partie des tubes sortis de la Nouvelle-Orléans des années 50 quasiment jusqu'aux années 70. Et il y a un paquet de merveilles, je peux te dire. Et puis des choses aussi bon, qui étaient des tubes là-bas aux États-Unis, mais qui n'ont pas forcément beaucoup marqué en Europe et qu'il est agréable de redécouvrir. Très bonne compile. Et je vais peut-être amorcer, alors peut-être pas ce soir, mais ni la semaine prochaine, parce qu'on a une émission spéciale, mais la semaine suivante, j'ai une petite rubrique avec, en passant, des originaux de ces tubes de la Nouvelle-Orléans et des reprises 70s, parce que ce sont des morceaux qui ont été souvent repris. Mmh. Voilà, on en reparlera dans 15 jours.
Eh bien, où est-ce que j'en étais ? Un petit morceau long, là, pour aller se détendre. L'album live de Derek and the Dominos, Eric Clapton et compagnie, hein, c'est sorti en 73, mais je pense que les morceaux ont peut-être été enregistrés un peu avant. C'est les gens qui avaient fait l'album Layla and Assorted Love Songs, hein, qui avait eu pas mal de succès. Bien sûr, il n'y avait plus Dwayne Allman, hein, le pauvre, c'était fini, il n'était plus là. Mm. Mais il y avait encore Eric Clapton, Bobby Whitlock, et puis une section rythmique compétente. Il reprenait les morceaux que Clapton avait fait à l'époque où il s'était associé avec alors c'était pas Bonnie and Clyde, c'était Delaney and Bonnie des singer-songwriters américains qui sont surtout connus pour le fait qu'ils s'étaient and friends et que dans les friends il y avait Eric Clapton et puis c'est le genre de double album double vinyle live dans lequel tu dois avoir tu vois ces 8 morceaux ouais, bon.
Oui j'ai vu
on va donc s'écouter
sur les 17 minutes
non ça, je suis un morceau relativement court 9 minutes 40 qui s'appelle Why Does Love Got To Be So Sad.
Eric Clapton donc et tous ses potes. We'll be right back.
Seulement voilà, on ne me croit pas, mais un jour ça va éclater. La vérité. Alors comme j'en ai assez pleuré, de toutes mes forces je me mets à crier. Mais puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle.
Et à chaque fois, les blouses blanches. Encore. Toujours les blouses blanches. Elles me disent non, vous n'êtes pas folle. Pas folle. Pas folle. Les blouses blanches. Moi aussi j'en ai eu. Une blouse blanche. Ah non. Non, c'était une robe. Une petite robe blanche. Avec des fleurs. Il y avait du soleil autour des fleurs. Et dans ma main, à moi, il y avait une main. Une belle main, avec des doigts qui chantaient. Qui chantaient. Oh, encore les blouses blanches.
Ça fera bientôt 8 années. 8 années que je suis interné. Oui, interné avec les fous. Avec les fous.
Un grand trait sur les 8 années, tout comme si rien ne s'était passé. Une nuit, moi j'irai l'envoler. Les 8 années. Diable à la main comme le jour de la robe blanche. Mais pourquoi que j'ai mis toutes ces blouses blanches? Mais puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle.
Vous voyez bien que c'était vrai. Je savais qu'elle reviendrait. La main, la belle main qui riait. Riait.
Mon amour, toujours. Mon amour, toujours, toujours. On s'aimera toujours. Oh, mais c'est eux qui croient que je suis folle. Mais je suis pas folle, mon amour. Je suis pas folle, je suis pas folle. On s'aimera toujours. Toujours. Ha 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 ha
Voilà, un morceau saisissant. Certains auront peut-être reconnu Alain Kahn, qui se faisait appeler Alain Z. Kahn à cette époque-là. L'avant-dernier album, le troisième et avant-dernier album d'Alain Z. Kahn, Whatever Happened to Alain Z. Kahn en 79. Mm-hmm. Et le morceau Les Blouses Blanches. Je suis pas folle. Voilà, Alain Z. Kahn qui faisait souvent preuve d'humour, d'autodérision, de provocation, et puis qui des fois sortait des morceaux comme ça, un peu presque inquiétant, je dirais. Eh bien, pour éviter à nos auditeurs de faire des cauchemars, là, on va s'écouter un magnifique jingle qui risque quand même de faire des cauchemars à certains.
Pas tant que l'autre jingle.
Ah, ça c'est sûr. Air guitar des bébés dinosaures. La rubrique tapping.
La rubrique
ça vient, ça vient. Stop. On se calme. C'est la rubrique Les Kinks, contrairement à toutes les apparences.
Eh ben oui, Les Kinks. Et donc on va s'écouter un morceau des Kinks du début des années 70, de leur album de 1971 qui s'appelait Maxwell Hillbillies. Un album qui était une espèce de retour, parce qu'ils avaient fait Lola qui était très bien. Ensuite ils étaient un peu disparus dans leur alcoolisme habituel. Ils avaient fait une bande de films qui n'avait pas laissé un souvenir impérissable. On s'écoutera un jour des extraits, mais bon. Et puis, ils sont revenus avec un album tout à fait différent, un album très très Americana, si on dirait maintenant, dont le titre dit tout. Hein. Muswell Hill, c'était leur quartier à Londres, mais Hillbilly, bien sûr, ça évoque plutôt la Virginie occidentale ou quelque chose comme ça. Et bon, il y avait les obsessions habituelles de Ray Davies. C'est sur cet album-là qu'il y a le morceau Alcohol, dont il a fait des versions particulièrement imbibées, disons, sur scène dans les années qui ont suivi. Et on va s'écouter un morceau qui s'appelle Acute Schizophrenia Paranoia Blues, dans lequel il doute, comme d'habitude, de sa santé mentale. We'll be right back. Et voilà. Acute Schizophrenia Paranoia Blues des Kings. Alors, ouais, que j'ai dit Americana pour l'album, ce morceau-là, comme d'autres, avait aussi un petit côté variété anglaise d'autrefois, hein, avec ce côté jazz de ce qu'ils appelaient music hall, des endroits où les gens allaient écouter la musique et danser. Je sais plus si le jingle est bien collé, mais tu l'enverras, il y aura un petit peu de silence réparateur.
On va le raccourcir, de toute façon, on est en retard.
Ouais, on va faire ça très vite. Hop, tu fais un peu de fast-forward.
Ah, mais tu l'as très bien fait le jingle, voilà, c'est bon, hein, on va pas aller
debout paysans et prolos, debout les belges du plateau.
Attends, je baisse un peu le micro quand même. Parce que...
voilà, donc c'était le jingle fromage de chèvre pour la rubrique fromage de chèvre qui ce soir va être consacré à Ry Cooder. C'est le CD numéro 2, c'est le dernier album de Ry Cooder, il est sorti il y a un peu moins d'un an, il s'appelle, comment il s'appelle, Pull Up Some Dust and Sit Down. Un titre un peu difficile à se souvenir, c'est celui qui commence par ce merveilleux morceau qui s'appelle No Banker Left Behind, qui décrit comment les banquiers, après avoir piqué tout le fric de tout le monde, se barrent aux Bahamas avec la bénédiction de George Bush. Il y a aussi beaucoup de chansons qui invitent George Bush à se fourrer dans le cul, la guerre en Irak et des choses comme ça. Et il y a plusieurs morceaux avec le vieux collaborateur de Ry Cooder qui est Flaco Jiménez, le rey de todas las polcas. Un Mexicain, un Texan en fait, un Texan, il est de San Antonio de Texas, mais de la communauté mexicaine du Texas, et qui joue la musica norteña. Pour les Mexicains, la musica norteña, c'est quoi? Polkas! Son polkas, amigo! Et des polkas, mais mexicaines. Et donc, on va s'en écouter une, alors c'est un corrido, donc y a aussi des chansons, si tu veux, un peu rapides. Qui souvent raconte des histoires, et ça c'est El Corrido de Jesse James.
Alors voilà,
voilà, Ry Cooder, Flaco Jiménez.
Talking from
Voilà, alors bien sûr, c'est pas une vraie chanson traditionnelle, hein, c'est du Ray Cooder, et c'est chanté dans un mélange d'anglais et d'espagnol, et je résume un peu les paroles. Jesse James est au paradis, mais il dit, écoutez, rendez-moi mon Colt 44, j'ai besoin de m'en servir, je retourne à Wall Street, et je vais dire deux mots à ces putains de banquiers, pour les envoyer brûler en enfer pour l'éternité.
Ah, c'est peut-être pas une mauvaise solution.
Voilà, j'ai résumé, hein, 5 strophes, d'accord. Mais c'est ça.
Bien, ben voilà, ce sera le morceau final pour ce Baby Nosaur ce soir. On rappelle qu'on est rediffusé tous les lundis de 15h30 à 17h.
Ouais, et là peut-être même que l'émission sera rediffusée complète.
Non, ça a coupé.
Ça a coupé quand même, heureusement.
Oui.
Voilà, et puis bien sûr, on peut nous écouter en direct, hein, tous les dimanches de 21h30 à 23h sur le 92.2 Canal Sud. Et on peut aussi récupérer les MP3 des émissions en podcast. Les liens se trouvent sur le site du fanzine Digit et aussi sur la page Facebook des Bébés Dinosaures. Voilà.
Donc, n'oubliez pas Digit aussi, tous les jeudis soirs, 21h30 jusqu'à au moins minuit. Toujours sur Canal Sud 92.2. Et puis la semaine prochaine, on aura donc un thème. Mission à thème.
Ah, du grand finesse. Ouais. Ah, on a cherché dur là. Ben oui, justement, on a cherché dur, on a trouvé hard. On a dit, voilà. Que des morceaux avec hard dans le titre.
Des noms de groupe éventuellement.
Voilà, oui, effectivement, j'en ai quelques-uns en tête. Ouais. Voilà, donc ça nous le fera. On n'aura pas trop de mal, hein, on n'aura pas trop de mal. Petite blague ?
Oui, une seule alors. Hein.
Oui, une seule.
Alors.
Moi, je vais te raconter une blague statistique. Tu sais que notre ami Joseph-Pierre est un statisticien de formation.
Oui, d'accord.
Donc il m'a envoyé une blague de statisticien. Oh, c'est une blague. Enfin, bon, une blague intellectuelle. Alors, il paraît que 30% des hommes obèses sont tellement gros qu'ils ne peuvent pas voir leur pénis. Mais finalement, c'est pas si terrible que ça, parce qu'une autre statistique affirme que plus de 75% des femmes obèses ne voient jamais le moindre pénis.
Elle est mignonne. Donc, moi, il m'envoie des blagues beaucoup moins intellectuelles. Hein. Et il n'a pas tort. C'est l'histoire d'une petite fille qui rentre à la maison. Et puis, qui dit à sa mère, « Oh, maman, tu sais, à l'école, les garçons, tout le temps, ils me demandent de faire la roue, ils se disent que je fais vachement bien la roue. » Oh, la maman, il dit, « moi, tu sais, je connais les garçons. Je pense qu'en fait, ils veulent voir ta petite culotte, tu sais. »« Oh, mais je sais, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je la cache dans mon cartable. »
Je me rappelle quand on me l'a raconté à l'école primaire, celle-là. Sauf qu'elle grimpait aux arbres.
Ah, d'accord. Bon, ben voilà, c'est une petite blague traditionnelle pour finir notre émission culturelle. On se quitte rapidement, hein, avant que la police des mœurs intervienne, avec le jingle.
Oui.
Et puis les merveilleuses bandes d'animation de Canal Sud. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Bien sûr.
Just your little dinosaur, and I could never really go.
No,
never really go.
He's back.